J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 15 ans, notamment au Sénégal. Moi, je parle le Wolof. Enfin, toute mon enfance est une enfance africaine, mais c'est une enfance africaine de quelqu'un qui est blanc. Une enfance africaine qui s'est déroulée dans les écoles sénégalaises, pas dans les écoles françaises ou internationales. Donc, moi, l'histoire coloniale, je l'ai apprise à l'école sénégalaise, du point de vue sénégalais. Et en même temps, je suis blanche, je vis aujourd'hui en France. Je ne suis pas française de naissance. Non plus, je suis arrivée en France, j'avais 19-20 ans. J'ai choisi de m'installer en France. Pourquoi ? Parce que je parlais le français. Pourquoi je parlais le français ? Parce que j'avais vécu au Sénégal, parce que je parlais, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc je suis une blanche, mais avec une histoire faite de beaucoup d'enracinement qu'on ne soupçonne pas forcément au départ. Et donc au moment où il y a eu le débat sur la restitution qui a commencé avec la déclaration de Macron en 2017 disant que dans 5 ans il faut que le patrimoine africain revienne en Afrique, ensuite il y a eu le rapport Sarr-Savoie et tout le débat qui s'en est suivi avec tout un tas d'idées préconçues qui pour moi étaient directement liées à l'histoire coloniale. Les Africains ils n'ont pas de musée, les Africains ils vont pas savoir s'occuper de ces objets, les Africains ils vont voler les objets, enfin c'était vraiment les Africains ils sont pas capables de s'occuper d'objets qu'ils ont eux-mêmes conçus. Et puis de toute façon on va vider les musées français, il restera plus rien, et puis l'art est universel, pourquoi on peut pas le garder en France ? L'art est universel tant qu'il est en France. S'il est en Afrique, il est beaucoup moins universel, ça va pas. Quand on parle des objets de l'histoire coloniale, on est effectivement, en France en tout cas, dans quelque chose qui est de l'ordre du silence, voire du négationnisme. Je vais un peu loin peut-être en disant ça, mais on s'en approche. On fait comme si cette histoire n'avait pas existé. Ou, bon, elle a existé, mais c'était il y a longtemps, on ne va pas en parler, c'est de l'histoire ancienne, et puis on ne va quand même pas demander pardon pour des choses qu'ont fait des gens qui ne sommes pas nous. Comme si nous, on n'était pas héritiers de cette histoire-là. Comme si nous, les villes françaises n'étaient pas aussi construites avec les richesses qu'il y a eu, comme si le racisme qu'on trouve aujourd'hui en France, comme si les violences policières qui existent aujourd'hui en France n'étaient pas héritées de quelque chose. Ça ne vient pas de nulle part, enfin, ça ne surgit pas comme ça. Ça vient de quelque part.
Vous venez d'entendre Taina Tervonen, auteur du livre « Les otages, contre-histoire d'un butin colonial » aux éditions Marchiali. Taina Tervonen était l'invitée d'un événement autour des objets sensibles, l'histoire coloniale et les musées français, organisé par le Musée d'Aquitaine, le laboratoire « Les Afriques dans le monde » et l'Institut des Afriques à la Halle des Douves à Bordeaux le 2 mai 2023. La rencontre a commencé par une performance de l'autrice et performeuse Patricia Weffa-Grange autour de la transmission des mémoires, Patricia Weffa-Grange assurant également la lecture d'extraits du livre de Taina Tervonen. La maîtresse de cérémonie était ce soir-là une spécialiste de l'histoire et de la littérature d'Afrique de l'Ouest, Ella Raberto, chargée de recherche au CNRS « Les Afriques dans le monde, l'âme » à Bordeaux. Avec ce livre de non-fiction, comme l'auteur aime à le dire, car les événements et les personnages ont existé, Taina Tervonen nous raconte l'histoire du colonel Louis Archinard, durant la conquête, à partir de 1880, de ce qui devient le Soudan français, c'est-à-dire le Mali actuel. En 1890, Archinard s'empare de Ségou, une des capitales du prestigieux empire tout couleur, et du trésor de son non moins prestigieux fondateur, El Hadj Omar Tall. Le trésor est constitué de pièces d'or, de bijoux, de meubles, de livres, d'armes, dont un sabre ayant appartenu à Omar Tall. Devenu butin de guerre, le trésor est dispersé et certaines pièces envoyées dans les musées français, dont le fameux sabre déposé au musée des armées à Paris. Et qui a fait l'objet, on le sait, d'une restitution officielle au Sénégal en 2019, premier objet restitué et voulu par le président Macron. À la suite de son discours et de son engagement à Ouagadougou en 2017, Je cite « D'ici 5 ans, je veux que les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain à l'Afrique. » Mère Chinard ne s'est pas seulement emparé d'objets lors de la prise de Ségou, il a également pris en otage le jeune héritier de cet empire tout couleur, vaincu et détruit, Abdoulaye Tall, 12 ans. Archinard vient, en effet, de théoriser au nom de l'armée coloniale française toute une pratique de la prise d'otages pour couper les héritiers de chefs politiques ou religieux de leurs racines en les envoyant à Paris pour en faire de petits Français servant l'administration coloniale et ne pouvant plus prétendre à un quelconque héritage politique ou religieux dans leur pays d'origine.
Pendant que je suivais cette corde, j'ai été visitée par des songes venus dissiper les mensonges. En rêve, j'ai vu l'homme-oiseau, l'homme-lion et l'homme-requin. Ils m'ont raconté les fastes et les jours néfastes de la vie royale. Puis, le palais en flammes, les statues, portes, trônes, sièges, autels, récades, vêtements et outils enlevés, déracinés. Trésor du sac d'abaumé par Dodds. Et ensuite, les caisses et les vitrines. En rêve, j'ai vu un sabre. Il m'a raconté l'enfant qui le brandissait face à l'envahisseur pour protéger les siens. Il m'a dit le garçon et lui enlevés, déracinés. Trésor de la prise de Ségou par Archinard. Puis, les caisses et les vitrines pour lui. Pour l'enfant, une vie sans père, avec deux pères, sans repère pérenne. Ils m'ont dit que les objets ne sont pas de simples choses inanimées. Les objets vivent bien plus longtemps que nous. Ils sont chargés de nos histoires. Et si nous leur laissions la parole pour écouter ce qu'ils ont à nous révéler?
Merci d'être venus si nombreux, c'est un plaisir de vous accueillir à cette lecture, performance, débat. Donc les otages, paru aux éditions Marchialini. Donc vous êtes journaliste à la fois pour la presse finlandaise et française. Et dans ce texte, cette fiction documentée, ce récit d'enquête, cette forme un peu mixte entre fiction, archives, récit d'enquête et écriture de la mémoire coloniale, il est question d'otages, et donc des otages bien particuliers, des livres, des bijoux, le fameux sabre d'Archinard, on va y revenir, pris lors de la prise de Ségou en 1890. Mais aussi deux enfants qui sont emmenés aussi en tant qu'otages, dont les destins sont retracés. Ce que je trouve très beau, c'est la manière dont vous articulez enquête de terrain, vulgarisation de la recherche scientifique, et vous donnez aussi accès à des pièces d'archives en donnant le temps à la parole de ces archives pour retracer les voix, notamment de ces deux enfants, en tout cas d'Abdoulaye, tout en prenant aussi position sur l'enjeu des restitutions qui rassemble, je pense, la majeure partie des gens dans cette salle. La question des restitutions des objets et aussi plus largement la question de la mémoire coloniale, à la fois en France et au Sénégal, et très largement la question du déni de mémoire en France. Donc l'ensemble du livre vise à retracer la question de la fameuse restitution du sabre d'El Hadj Omar au Sénégal, d'abord prêté en 2018 par Édouard Philippe, puis restitué formellement. C'est l'histoire de la guerre coloniale, donc la confrontation entre Archinard et Amadou, le fils d'El Hadj Omar. Et c'est aussi la circulation des otages, donc des objets, ce butin de guerre qui a fait l'objet de beaucoup de fantasmes. Donc vous retracez tous les inventaires multiples, les bijoux qui étaient estimés à des millions, et puis finalement les objets en tant que tels, certains se perdent, certains reviennent, certains disparaissent. Et aussi des personnes, donc deux personnes en particulier. Le jeune fils Abdoulaye qui défend sa mère avec, devant les soldats français avec ce sabre, qui serait le sabre restitué par la France. Et ce fils Abdoulaye a une trajectoire absolument incroyable. Il est emmené en France par Archinard, et il fait ses classes à Janson de Sailly, et ensuite c'est un élève à Saint-Cyr, et il décède très tôt en 1899 à seulement 20 ans. Donc vous retracez cette trajectoire assez fascinante de jeune prince, et une voix qui est peut-être encore plus touchante, où il n'y a pas de trace de cette femme, Naba Camara, confiée à 6 ans à la sœur d'Archinard au Havre, et qui grandit au Havre auprès de sa sœur. Et donc là, on a des voix qui sont infimes. Enfin, d'ailleurs, on sait, les femmes laissent moins de traces que les hommes dans les archives, mais une voix de cette petite fille qui grandit au Havre. Donc ces otages, c'est aussi ces deux personnes-là, ces deux trajectoires d'enfants qui ont été emmenés pour des raisons diplomatiques et des raisons peut-être personnelles ou intimes pour Naba Camara, on ne sait pas, en tant qu'otages. Massivement, c'est sans doute ce qui nous réunit, c'est surtout la question des restitutions qui a eu un rebond absolument énorme en France depuis le rapport Sarr et Savoie, donc de Félix Sarr et de Béatrice Savoie, Restituer l'art africain, paru en 2018. Et votre ouvrage s'insère dans la continuité, en tout cas en France, de ce débat qui a vraiment polarisé les médias, on va dire, où de nombreux médias s'inquiètent de la disparition des collections patrimoniales françaises, tandis que d'autres appellent un retour. D'ailleurs, le pape vient de se positionner en faveur des restitutions la semaine dernière. Et il me semble que votre livre s'insère dans ce débat, notamment en démontant plusieurs séries de stéréotypes, en montrant notamment que les musées français ne sont pas du tout plus sûrs que d'autres musées africains, et vous retracez notamment la manière dont les musées ont été cambriolés et dont le fameux butin de Ségou s'est progressivement effrité au rythme des cambriolages et des vitrines fracturées, des cotes perdues, des bijoux volés et des objets non référencés, et donc vous montrez que les objets se perdent aussi. Et vous démontez aussi un autre stéréotype qui est que les objets ont été acquis, donc là on a vraiment un cas de pillage totalement attesté, systématique, méthodique pour le cas de Ségou, donc là il s'agit d'un cas massif. Et vous montrez ce rapport affectif et ces différences aussi de rapport affectif sur ce qui se crée dans le patrimoine en France et au Sénégal. À propos de ces différences de mémoire, on va lire le premier extrait. Je voudrais juste en dire deux mots dès à présent. vous montrer comment Eladj Oumar est un héros national, bien sûr, au Sénégal, et vous montrer aussi comment en France et au Havre, ni Archinard, ni Eladj Oumar ne sont connus. Et c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est en France la dépolitisation de la mémoire coloniale. Et cette idée qu'il y aurait un oubli tactique de déprise des enjeux post-coloniaux, comme s'ils étaient dénaturalisés, comme si c'était une histoire ancienne. Et cette idée que l'histoire coloniale est une histoire ancienne, c'est une idée vraiment déjà à démonter, et c'est aussi une manière de dépolitiser ce qui fonde l'histoire française, et notamment ce qui fonde des rapports néocoloniaux, économiques, diplomatiques, culturels, et ce qui permet de dépolitiser aussi le patrimoine des musées. Comme si le patrimoine postcolonial n'était pas directement lié en fait aux guerres coloniales. Donc cette idée que l'oubli, ce serait pas très grave en fait qu'au Havre on connaisse pas Archinard, en fait si c'est grave, et c'est un oubli qui est politique et qui est en fait qui est en soi un signe de la violence néocoloniale. Et donc le premier extrait raconte cette différence de mémoire qui est loin d'être anodine.
Oumar Tall est de retour. Il s'assied sur la natte et s'adresse à moi. C'est Ségou surtout qui vous intéresse, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qui s'est passé avec les objets qui ont été pris là-bas et avec Abdoulaye, le fils d'Amadou. Ce que j'ai appris de l'histoire, c'est ceci. Une personne a parlé aux troupes d'Archinard, leur a livré un secret qui a permis aux troupes d'entrer dans Ségou. Ils sont arrivés au palais d'Amadou, mais il n'y avait que des femmes et le jeune fils d'Amadou, Abdoulaye, qui a riposté. C'est là qu'Archinard s'est dit, cet enfant, c'est un grand guerrier. Il ne faut pas le tuer, il faut le capturer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le sabre aussi, celui qui était dans les mains d'Abdoulaye. Mais attention, ce n'était pas le vrai sabre d'Eladj Oumar Tall, comme les Français le disent. C'était un sabre d'Amadou. Certains disent aussi qu'Eladj Oumar Tall n'avait pas de sabre du tout. Non, ce n'est pas vrai. Il avait un sabre, mais ce sabre-là est à Bandiagara. Il avait plusieurs sabres même, parce que personne ne fait la guerre avec une seule arme. Il s'arrête un instant, puis reprend. Certaines des histoires qui vous intéressent ne sont pas agréables à entendre, parce que ce qui primait, c'était la loi du plus fort. C'est ce qui s'est passé entre les Noirs et les Blancs. Les Blancs étaient plus forts, plus armés. Cher Oumar n'a jamais voulu combattre les Blancs. Il voulait bâtir un empire musulman avec un islam clair, sans obstacle. C'est pour cela qu'il est parti de Dinguiraye vers l'Orient. Les Blancs l'ont ensuite attaqué, voulant détruire son armée. C'est ainsi que ça s'est passé. Une longue histoire. Le silence s'installe. Dehors, les oiseaux se sont mis à chanter. Et Abdoulaye, les Français ont écrit quelque chose sur lui ? Demande Oumar Tall. Pas ma connaissance. Beaucoup de Français pensent que l'histoire coloniale ne les concerne pas, parce qu'ils n'étaient pas là personnellement. Pourtant, beaucoup de villes françaises se sont construites sur les richesses de l'Empire colonial. Bordeaux, Nantes, Marseille. Les Français aujourd'hui ne connaissent même pas Faidherbe ni Archinard. Ah bon ? Pourtant ils sont Français ? C'est vrai. Mais on n'enseigne pas cette histoire à l'école française. Je crois que l'on connaît mieux Faidherbe et Archinard au Sénégal.
Merci beaucoup. Dans cet extrait, il y a plusieurs choses. Il y a le rapport légendaire à ce sabre, alors qu'il a fait couler beaucoup d'encre au Sénégal. Est-il ou non le sabre d'Eladj Oumar ? Et puis, il y a ce « pourtant, ils sont français ». Donc, qui montre aussi ce déni d'histoire en France et ces différences de mémoire. Est-ce que vous pourriez revenir sur comment vous avez construit cette enquête et puis ces différences de mémoire que vous traitez dans plusieurs chapitres où vous donnez des voix à ces mémoires partagées qu'on devrait avoir en partage et qui finalement fonctionnent comme des vases clos?
Oui, effectivement, ce ne sont pas vraiment des mémoires partagées dans le sens où on s'écoute les uns les autres, hein, malheureusement. En ce moment, c'est pas vraiment ce qui se passe. J'espère que ça se passera un jour, parce que je crois qu'on en a besoin, hein, tous, de s'écouter et d'entendre les différentes versions de cette histoire. En fait, moi, dans cette enquête, il y avait une question qui s'est posée très, très vite, qui était la question d'où moi je parle, déjà, d'où moi j'écris. Juste pour vous donner quelques éléments de mon parcours personnel, moi j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 15 ans, notamment au Sénégal. Moi je parle le Wolof, enfin, toute mon enfance est une enfance africaine, mais c'est une enfance africaine de quelqu'un qui est blanc. Une enfance africaine qui s'est déroulée dans les écoles sénégalaises, pas dans les écoles françaises ou internationales. Donc moi l'histoire coloniale, je l'ai apprise à l'école sénégalaise du point de vue sénégalais. Et en même temps, bah, je suis blanche, je vis aujourd'hui en France. Je ne suis pas française de naissance. Non plus, je suis arrivée en France, j'avais 19-20 ans. J'ai choisi de m'installer en France. Pourquoi ? Parce que je parlais le français. Pourquoi je parlais le français ? Bah, parce que j'avais vécu au Sénégal, parce que je parlais. Voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc je suis une blanche, mais avec une histoire faite de beaucoup de d'enracinement qu'on ne soupçonne pas forcément au départ. Et donc, s'attaquer à cette histoire coloniale. Qui pour moi est une histoire dont je vois des relents dans la société française depuis que je vis en France, mais qu'on ne traite pas en France. Enfin, on n'en parle pas de cette histoire en France. Hein. Il y a des relents comme ça qui ressortent, mais c'est comme si les Français ne faisaient pas le lien avec d'où ça vient, quoi. Et c'est comme ça que mon enquête elle a commencé. Moi, j'avais envie de parler d'histoire coloniale à travers ces objets et de voir où ça me menait. J'avais pas vraiment d'idée où ça allait me mener. Je ne viens pas du tout du monde des musées, je ne viens pas de l'histoire de l'art, ce n'est pas mon domaine. Moi, je viens de la littérature, de l'écrit, et voilà. Et je ne me doutais absolument pas de ce que j'allais trouver en cours de route. Mais ce qui me semblait important, c'était que cette histoire-là, elle puisse être racontée des deux côtés. Étant donné que, vous l'aurez compris, moi j'ai un pied là-bas, j'ai un pied ici, c'est pas toujours évident d'approcher cette histoire-là. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait que je change de lunettes constamment. C'est-à-dire que je regarde cette histoire-là avec la grille de lecture, enfin le regard sénégalais, et ensuite avec le regard français. Ni l'un ni l'autre n'est vraiment le mien, parce que je suis pas sénégalaise de naissance non plus, je suis pas française de naissance. Enfin, voilà. Et donc la façon de faire que j'ai trouvée qui me semblait la plus honnête vis-à-vis des lecteurs, c'était de dire, ben voilà d'où je parle, moi. Donc en fait, le livre commence avec un prologue où le khalif, donc le descendant d'Eladj, un des descendants d'Eladj Oumartal, me renvoie une question à laquelle je m'attendais, bien sûr, qui était, vous, en tant que blanche, pourquoi vous intéressez à cette histoire-là ? Blanche et descendante des colons. Voilà, et donc je lui réponds, et en même temps, je réponds au lecteur. Voilà. Et à partir de là... Il me semblait important qu'à chaque fois, quand il y a une rencontre, je restitue la rencontre telle qu'elle se passe. Donc, ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est la rencontre avec Oumartal, qui est un autre descendant d'Eladj Oumar, qui vit dans le village de naissance d'Eladj Oumar, qui est un peu sa famille, c'est un peu les gardiens du temple, quoi, en quelque sorte. C'est un lieu de pèlerinage, c'est un lieu extrêmement important pour tous les disciples d'Eladj Oumartal et pour tous les croyants qui font partie de la confrérie des Tidjanes. Et moi, je voulais y aller pour que lui me raconte sa version. Mais je voulais que le lecteur ou la lectrice puisse s'asseoir à côté de moi et écouter ce que Oumartal a à dire. Mais de la même façon qu'ensuite, je vais rencontrer, je sais pas, une conservatrice du Quai Branly qui va, elle, me parler de son travail autour des objets. C'est-à-dire que toutes les personnes rencontrées ont un lien avec ces objets, d'une façon ou d'une autre. Et je crois que la question de la rencontre était pour moi vraiment quelque chose d'important.
Ces fils, vous les prenez donc à partir d'exemples très concrets. Donc vous remontez les lignes de fabrication de ce sabre. Il est quand même extrêmement fascinant. Fut-il d'Eladj Oumar ou pas. En tout cas, c'est un objet qui est métis, on pourrait dire. C'est un sabre qui est forgé à Klingenthal en Allemagne, dans un village particulièrement réputé pour être une forge de lames en Europe. Et c'est un forgeron tout couleur qu'on a fait la poignée. Et c'est sans doute un cadeau diplomatique, à vrai dire. Et donc vous rappelez à quel point ce sont des sabres multiples dont on essaye de tracer l'histoire. Et de la même manière, vous articulez cette histoire de sabre à la trajectoire de vie d'Abdoulaye, puisque Naba Camara, finalement, c'est extrêmement compliqué de retracer sa vie en l'état actuel des connaissances. Et donc, vous montrez comment ces deux existences, en fait, on peut en retracer les vies à travers les archives. Et je trouve très beau la manière dont vous montrez que c'est des existences, en fait, qui sont donc très intimes. Et vous montrez comment le rapport, la rencontre coloniale, la guerre coloniale, ce sont donc des grandes positions, bien sûr, et aussi c'est des affaires d'intimité. Et donc vous abordez cette question à travers un cadre extrêmement concret, un sabre, une personne. Et donc je trouve que vous arrivez à dire des choses très fines parce que vous avez un cas très concret, très intime, et vous montrez comment la colonisation a été aussi des affaires d'affect, d'interpersonnalité. Pourquoi Archinard se prend de passion pour ce jeune homme, c'est une affaire diplomatique, mais il y a aussi de l'inexplicable dans le fait qu'il ait été frappé par ce jeune garçon qui se mette à défendre sa mère alors qu'il était évident qu'il était dans une situation désespérée. Et vous montrez aussi ces fragments indicibles, en fait, dans le rapport colonial, quoi.
Oui, je pense que sur... après, ça, c'est peut-être mon bagage de journaliste. Quand on travaille en tant que journaliste, il faut aller dans la précision. Enfin, on ne peut pas parler comme ça, quoi. Enfin, on n'écrit pas des généralités. C'est pas notre métier. Et puis, je pense que de toute façon, enfin, pas seulement dans le journalisme, mais aussi dans la littérature, la question de la précision est extrêmement importante. D'être précis, d'être concret, de partir de quelque chose de concret. Quand on s'approche de choses concrètes, on commence à poser des questions qui deviennent intéressantes. C'est-à-dire, ce sabre, il était fabriqué par qui ? Ce sabre, il a été pris où ? Quel jour ? Abdoulaye, il avait quel âge précisément ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le sait pas ? Voilà. Et ça amène à des choses qui font que l'histoire devient l'histoire commence à s'incarner. C'est-à-dire, il n'est pas question de, c'est pas un livre. Ça raconte l'histoire coloniale, mais ça raconte surtout l'histoire effectivement d'Archinard, de Louis Archinard, qui est un colonel qui part du Havre, hein, et qui finit. Qui finit au ski, à l'époque s'appelle le Soudan français, donc c'est le Mali actuel, qui a une trajectoire qui est la sienne, qui construit sa légende personnelle au Havre en faisant des dons au musée, qui est un peu mytho quand même sur les bords, parce que quand on regarde ces différentes lettres, tous les documents qu'on trouve, que ce soit dans les archives militaires ou dans ses archives personnelles qui font partie aujourd'hui des archives de la marine française, on voit qu'il raconte différentes versions de la même histoire, en fonction de à qui il s'adresse. Et puis, plus il avance dans l'âge, j'imagine que sa mémoire se fait peut-être un peu défaillante, et puis, il a envie, lui, de raconter sa vie. Enfin, voilà, c'est normal aussi. Enfin, je ne sais pas, on ne raconte pas sa vie de la même façon quand on a 30 ans ou quand on en a 75. Et donc, qui re-raconte sa vie quand il fait un don de plusieurs objets au musée de l'armée, par exemple. Donc, on retrouve des lettres qu'il a écrites au musée de l'armée où il explique à quoi correspond chaque objet. Et parfois, il dit lui-même, je ne me souviens plus très bien, mais on va dire que cet objet vient de cet endroit, de cette bataille, etc. Et en fait, quand on regarde cette lettre, ça, c'est une sorte de CV de toutes les batailles importantes, etc. Archinard, pourquoi il décide de prendre Abdoulaye avec lui ? Il y a en partie quelque chose de très pensé, d'organisé, puisqu'on retrouve des traces dans d'autres lettres où il explique qu'il faut prendre les fils des rois et les amener en France, pour faire en sorte qu'ils deviennent français, pour qu'ils ne puissent plus jamais prétendre au trône s'ils retournent au pays. Donc ça, c'est quelque chose de pensé, qui est explicité. Mais pourquoi Abdoulaye, à ce moment-là, pourquoi il a une correspondance avec Abdoulaye tout le long de la vie d'Abdoulaye ? Je ne sais pas ce qui se joue pour lui. Personne ne le sait, à part. Enfin, voilà, on n'a que les quelques traces qu'il y a dans les lettres. Mais Archinard, tout comme Abdoulaye, tout comme Naba Camara, on est tous des êtres humains avec toute la complexité d'un être humain. Thank you.
Maya. Maya, 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 Maya. Maya, 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 boy. We're not let a Malay one. Do my tie, deliver. You like said, do my tie, deliver. Maya, 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 Maya,
qu'on voulait présenter à propos d'autres fils de chef, mais c'est un endroit où Archinard est très clair sur le rôle diplomatique que peuvent avoir ces jeunes enfants. Et donc c'était le deuxième texte qu'on souhaitait faire entendre, des deux petits serpents. Il est d'une lucidité sur ce qu'est l'entreprise coloniale absolument sidérante.
Il est fâcheux pour la tranquillité du pays que ses enfants n'aient pas disparu dans la bagarre et qu'on ne les ait pas absolument dépaysés. Mais maintenant, il n'y a guère plus moyen de revenir sur la mesure bienveillante qui a été prise. Nous avons élevé deux petits serpents qui sont intelligents, qui parlent assez correctement français, l'écrivent de manière à pouvoir être compris. Ils se regardent, malgré le souci qu'on a pris d'eux, comme prisonniers, et n'aspirent qu'au moment où ils obtiendront leur congé définitif de notre école pour aller se perfectionner dans l'étude du Coran et des livres saints et devenir, comme leur père, des grands marabouts et meneurs de guerre sainte. Ils sont l'objet de la vénération de presque tous, et maintenant que l'aîné a ses 16 ou 17 ans, les villages commencent à lui envoyer des femmes en mariage. Je n'ai pas autorisé les mariages, les parents ayant avoué que le jeune homme était encore bien trop jeune, et sa famille lui conserve ses fiancées. Chefs de village et parents font depuis quelque temps des démarches pour obtenir qu'on leur laisse l'aîné dont ils veulent faire un marabout. J'ai fait venir dans mon bureau les enfants devant ceux qui les réclamaient. Je leur ai fait faire quelques lignes de dictée et j'ai remis leur sortie à quelques mois plus tard en alléguant qu'ils n'étaient pas encore suffisamment instruits en français. J'ai ajouté que je ne voyais aucun inconvénient à ce qu'ils deviennent marabouts et que nous avions nous-mêmes envoyé des marabouts comme Bou El Mogdad jusqu'à la Mecque. Pour mon compte personnel, je suis absolument persuadée que ces enfants que je connais depuis un an, avec l'entourage que je leur connais et les sentiments qu'on manifeste à leur égard, seront pour nous, un peu plus tard, des adversaires d'autant plus dangereux qu'ils auront vécu près de nous. Je ne vois qu'un moyen de nous débarrasser pour l'avenir de deux prêcheurs de guerre sainte qui sans doute donneront de nouveaux soucis à quelqu'un de mes successeurs et nous imposeront quelques nouvelles insurrections à réfréner. Ce serait d'envoyer ces deux jeunes gens dans un lycée de Paris. Ils y deviendront suffisamment français pour ne plus s'occuper de guerre sainte et pourront être des fonctionnaires précieux. En tout cas, un séjour de quelques années au milieu de nous leur enlèverait tout prestige religieux aux yeux de leurs compatriotes.
Merci beaucoup. Donc, oui. Il me semble que cet écho est en fait un aveu de ce qu'il attend d'Abdoulaye.
Oui, tout à fait. C'est une lettre que Archinard écrit quelques temps avant d'entrer dans ses goûts. Et donc, où il explique vraiment de façon extrêmement claire, enfin, vous l'avez entendu, ce que lui pense être bien pour la France et quel est le destin qu'il faut réserver à ces jeunes princes. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'ensuite, quand il se retrouve face à Abdoulaye, il décide effectivement de l'amener en France. Ce qui va pas de soi à l'époque, parce que c'est pas vraiment un avis qui est partagé par l'administration coloniale à Paris. Mais il force la main. En fait, Archinard, à plusieurs reprises de sa carrière, il force la main, il prend des décisions et il met ses supérieurs, enfin son administration, devant le fait accompli. C'est le cas d'ailleurs.
C'est un grand classique des officiers français, même dans leur politique de conquête, de mettre l'administration face au fait accompli.
Oui.
C'est même une stratégie des officiers en règle générale.
Oui. Oui. Par exemple, pour la prise de Ségou. Très clairement, c'est une décision qu'Archinard prend tout seul à un moment donné et il informe simplement, voilà, ça y est, c'est fait. Donc il y a eu aussi Naba Camara. Naba Camara est une histoire un peu différente. Donc, Naba Camara, c'est une petite fille bambara qui arrive en France à l'âge de 6-7 ans et dont Archinard explique l'histoire dans une lettre où il dit qu'en fait, l'enfant s'est accouru vers lui, s'est jeté dans ses bras, etc. Enfin voilà, il en fait une version assez romancée, où il est un peu le sauveur de cette petite fille. On ne sait pas de quoi elle se sauve. Enfin, voilà. Et Archinard l'amène donc au Havre. Archinard n'a jamais eu d'enfant lui-même. Il s'est marié sur le tard. Il n'a jamais eu d'enfant. Donc finalement, ses deux seuls enfants, enfin avec beaucoup de guillemets, parce qu'il ne les présente pas comme étant ses enfants, mais en même temps, ça y ressemble un peu. C'est-à-dire que Naba Camara est confiée à la sœur d'Archinard. Donc elle grandit au Havre. Donc c'est une petite fille noire qui grandit au Havre au XIXe siècle et qui meurt au Havre à l'âge de 40 ans. Naba Camara est enterrée dans le caveau familial de la famille Archinard. Donc on retrouve sa tombe au Havre, c'est toujours là. Mais il n'y a pas de trace de Naba Camara dans les archives écrites, en tout cas. On retrouve des traces de la vie de Naba Camara dans quelques lettres qu'Archinard écrit, mais c'est plutôt l'enfance, vraiment les toutes premières années. Voilà. Oui. Mais sur sa vie de jeune fille, de jeune femme, on ne sait pas, on ne sait rien.
Donc vous montrez comment il y a une pratique d'otage à la fois des objets, et c'est bien sûr l'objet du livre que de retracer ce sabre, ce trésor, et aussi toute une partie d'otages qui sont ces personnes qui ont été déplacées au même titre que les objets finalement, avec une dimension affective quasi égale. Enfin, c'était vraiment... Et donc le dernier extrait que je trouve très beau et qui montre aussi dans votre écriture la place que vous accordez aux différentes voix et la place que vous donnez... aux archives, c'est à la fin de votre livre qui est quasiment entièrement consacré à la voix d'Abdoulaye et aux lettres qu'il a pu écrire à Archinard. Et donc au fil de cette correspondance se dessinent des rapports de pouvoir entre ce jeune garçon et son protecteur, et petit à petit la manière qu'il a de prendre conscience de son statut d'otage. Et donc l'extrait qu'on a choisi, c'est ce moment où il se rend compte qu'il est un pion dans l'échiquier d'Archinard et pas seulement un protégé d'un sauveur. Et il se rend compte qu'il est pris dans les filets d'enjeux diplomatiques où il sera irrémédiablement et jusqu'à la fin le fils d'un vaincu. Et c'est une prise de conscience absolument fascinante, je trouve, un constat très lucide sur la colonisation. Et cette correspondance donc, que vous avez retrouvée à Fréjus permet de donner aussi dans votre écriture, de faire une place à la voix de ce vaincu et dans votre écriture d'insérer des voix autres en vous mettant en fait en retrait dans toute la dernière partie de cet ouvrage. Donc j'aimerais juste qu'on entende, un, la voix d'Abdoulaye, et deux, que vous reveniez sur la manière que vous avez eu d'écrire tout ce dernier gros tiers du texte.
Tu vois, mon cher général, si je suis capable de dire les choses dont M. Lamoury m'accuse. Mais puisqu'on me prête de pareilles paroles, je les accepte. Et j'ajouterai, la plupart des officiers qu'on envoie au Soudan pour servir leur patrie sont indignes de la mission qui leur est confiée. Ceux qui arrivent, même avec des intentions honorables et humanitaires, sont bien vite corrompus par le contact de ceux que l'alcool a abrutis. Préoccupés d'avoir leurs manches couvertes de galons et d'avoir sur leur poitrine des insignes honorifiques, ils ne sont bons qu'à créer des guerres. S'ils n'en existent pas, il n'y a qu'à massacrer les pauvres noirs qu'ils poussent à la guerre à force d'atrocités. Et ensuite, comme ils sont les vainqueurs, ils ombragent les femmes et torturent les enfants sans défense. Voici les bons effets de cette civilisation dont on invoque le nom chaque fois que le besoin se présente. Maintenant, quant à l'insulte volontaire que M. Lamoury m'a faite, je l'accepte aussi. Il a raison. Je ne suis qu'un fils de vaincu. Et à ce titre, je ne dois m'attendre qu'à des humiliations et à des grossièretés des brutes de son espèce. Je suis le fils d'un vaincu, c'est vrai, mais j'ai la satisfaction de constater que M. Lamoury est le seul de tous les Français qui m'a rappelé dans quelles conditions j'étais en France. Dans tous les cas, si mon père a été vaincu, ce n'est pas par lui. Et celui qui l'a fait a su, par sa bonté, par son affection, faire oublier au fils qu'il l'avait privé de son père et de sa famille. Enfin, quoi qu'il en soit, j'espère que Dieu, ce soutien des faibles, ce père des orphelins, m'aidera et qu'un jour, malgré ma qualité de fils de vaincu, je pourrai demander à M. Lamoury la raison de son insolence.
Donc là, effectivement, c'est un extrait d'une lettre d'Abdoulaye. Je n'ai strictement aucun mérite dans l'écriture, vous l'aurez bien constaté, c'est la voix d'Abdoulaye reproduite telle qu'elle. Cette lettre, c'est la plus longue qu'Abdoulaye a écrite. Elle fait 11 feuilles à 4, écrites des deux côtés, ce sont des lettres manuscrites, bien sûr. Et au moment où j'étais en train de lire cette lettre-là, il y a une dizaine de lettres en tout aux archives au Fréjus. Je les ai classées par ordre chronologique et puis je me suis mise à lire. Et donc ça, c'est vers la fin. Il y en a d'autres, quelques autres par la suite. Mais ça, on arrive vers la fin des lettres. Ça m'a glacée, en fait. Parce que j'avais l'impression que je lisais quelque chose qui ne s'était pas passé il y a 130 ans, mais quelque chose qui se passait aujourd'hui. Et c'est ça qui était glaçant. C'est comme si ce n'était pas passé 130 ans entre cette lettre et aujourd'hui, mais qui s'était, voilà, que le temps était comme condensé, quoi. C'est-à-dire que le mépris qu'Abdoulaye décrit dans cette lettre, en fait, dans cette lettre, il raconte son voyage au Sénégal. Donc il a été autorisé à retourner au Sénégal à deux reprises, ça c'est le deuxième voyage, et en fait le deuxième voyage se passe extrêmement mal, parce qu'Abdoulaye revient en tant que Français, en tant que futur Saint-Cyrien, c'est ça qu'il veut faire, il veut être officier dans l'armée française, et il revient en tant que Français, et il se retrouve devant l'administration coloniale sur place, à Dakar, à Saint-Louis, qui lui renvoie dans la figure qu'il n'est qu'un fils de vaincu, et il n'est certainement pas un Français. Et je crois que quelque part, malheureusement, on en est toujours là, avec une demande d'être français, de prouver qu'on est français, de faire ses preuves, de s'intégrer, là, et une injonction à ça, et en même temps, le constat que jamais ça ne sera possible. Voilà. Et que ça ne sera jamais assez. Et c'est ça qui était glaçant, en fait. Et que là, je me dis, l'entreprise coloniale a quand même été sacrément efficace pour que 130 ans après, on en soit toujours là. Et comment on va faire pour sortir, en fait, de cette situation? Comment on va faire pour détricoter quelque chose de cette histoire-là? Je me dis, moi, enfin, ça c'est juste mon opinion très personnelle, c'est, je pense qu'en s'écoutant, enfin, en laissant de la place pour ces différentes voix, pour ces différentes versions de l'histoire, qui est une histoire commune, après tout, hein, enfin, c'est une histoire qu'on a vécue ensemble. C'est pas les Africains qui l'ont vécu d'un côté, ou les Sénégalais qui l'ont vécu d'un côté, et les Français d'un autre côté. Enfin, et on a été ensemble dans le même espace. Que ce soit sur le territoire du Sénégal actuel ou du Mali actuel, ou que ce soit en France ensuite. Abdoulaye, il a grandi dans le 16e arrondissement de Paris. Le lycée Janson de Sailly, c'est un lycée extrêmement réputé qui existe toujours à Paris. Voilà, il est entré dans ces cercles-là. Il a été considéré comme jeune prince. Donc comment on va faire pour que la voix d'Abdoulaye et la voix d'Archinard puissent être entendues et qu'on se dise, ben, nous, aujourd'hui, on a aussi des différentes versions de l'histoire. Et on peut peut-être s'en parler et s'écouter. Et c'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui. Juste peut-être une petite anecdote sur le, je continue sur le lycée Janson de Sailly que j'ai contacté pour savoir s'ils avaient dans leurs archives quelque chose sur l'histoire d'Abdoulaye. C'était un ancien élève, je savais sous quel nom il avait été inscrit, pendant quelles années, etc. Et la réponse qui m'a été faite en premier lieu par mail, c'était: est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus sur votre projet, parce que vous comprenez, c'est une histoire sensible et on ne voudrait pas participer à un ouvrage de nature équivoque. J'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Bon, j'ai essayé de les rassurer et finalement m'ont envoyé toutes les informations qu'ils avaient, les notes d'Abdoulaye, et ils m'ont même demandé si j'avais d'autres informations sur l'histoire d'Abdoulaye pour faire une page consacrée à Abdoulaye dans la partie de leur site consacrée aux anciens élèves de Janson de Sailly, par lequel sont passés plein d'hommes et de femmes qui aujourd'hui occupent des positions assez prestigieuses dans la société française. Donc finalement, la rencontre s'est faite, mais la première réaction est celle-là. C'est une histoire sensible et on parle d'un gamin qui est allé dans un lycée parisien il y a 130 ans. Et là, je crois que j'ai saisi quelque chose de ce que je disais tout à l'heure, de la peur, de la négation, de l'oubli, de c'est derrière nous, on va, faut pas qu'on y touche, quoi. Ça fait peur. Ça fait peur et je ne sais toujours pas pourquoi ça fait peur. Ça, je n'ai pas trouvé la réponse. Pourquoi c'est un tel tabou? Pourquoi ça fait si peur? Alors, j'ai quelques indices. Je me dis, bon, il y a peut-être la peur de la colère, la peur des émotions que ça peut susciter chez les uns, chez les autres. Peut-être qu'il y a de la honte aussi, je ne sais pas. Mais très clairement, voilà, il y a une peur dont l'origine, moi, m'est encore pas clairement identifié. Enfin, si vous avez des idées, je suis preneuse, hein, parce que j'ai toujours pas compris vraiment d'où ça venait.
Le miroir me renvoie le reflet des voix qui ne se prononceront pas, des ombres qui ne me répondront pas. À quel monde est-ce que je peux bien appartenir? Le miroir me renvoie le reflet d'un être qui ne sait plus où renaître, d'un être qu'on ne veut pas reconnaître. Parviendrai-je à apprivoiser un équilibre? Une part de moi regarde l'autre et voudrait s'en arracher. Une part de moi regarde l'autre et voudrait s'y attacher. Et mon pauvre être en chair, tiraillé, ma peau livre bataille à mes sensations. Mon esprit combat chacun de mes ressentis. Et ma pauvre âme, écartelée. À quel monde est-ce que je peux bien appartenir? Parviendrai-je à trouver un équilibre?
Ces objets ont été amenés en France pour raconter quelque chose. Tout à l'heure, il y avait la question du lien entre les objets et les humains. Mais les objets, enfin, moi, les objets, je les trouve fascinants parce que les objets ne meurent pas. Enfin, il y a bien un film qui s'appelle « Les statues meurent aussi ». Mais les objets ne meurent pas dans le sens où les objets nous survivent à nous, êtres humains. C'est des choses qui ne sont pas vivantes de la même façon que nous le sommes. Moi, je continue à penser que les objets sont vivants aussi, mais bon, d'une autre façon. Mais ils nous survivent. Donc, ils sont témoins. Quand on regarde un objet dans un musée, on regarde un objet qui a vu des choses que nous n'avons pas vues. Et qui verra peut-être des choses que nous ne verrons pas. Enfin, voilà, le temps de l'objet est très différent. Donc, ça, je trouvais ça fascinant dans la façon dans ce que ça permet de connexion avec le passé, ou peut-être avec l'avenir aussi. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'un objet, il n'existe pas en tant que tel. Un objet existe parce qu'on le regarde et parce qu'on lui attribue quelque chose avec notre regard. Et Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le pense. Et que, ben voilà, c'est toute la question de comment on regarde ces objets aujourd'hui. Comment on regardait les objets quand ils sont arrivés en France pour les objets du butin de Ségou, du trésor de Ségou. Ce sont des objets qui ont été exposés quelques années après leur arrivée en France, mais qui ne sont plus exposés depuis des dizaines d'années. Ce sont des objets qui ne sont que dans les réserves. C'est-à-dire qu'on ne les, soumet plus à notre regard. Pourquoi ? Enfin, ça, c'était une question que moi, je me suis beaucoup posée. Est-ce que c'est parce que ce sont des objets qui nous parlent d'une époque coloniale, qui sont d'une certaine façon trop coloniaux pour être montrés aujourd'hui ? À l'époque où on les a amenés et où on les a montrés, c'était pour raconter la puissance de l'État français et de l'Empire français sur, et la supériorité de la civilisation française sur la civilisation de ces autres peuples. Quoi. Donc, cette histoire, évidemment, on ne peut pas la raconter exactement de cette façon-là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que cette histoire n'existe pas hein, ailleurs et d'une autre façon. Mais en tout cas, dans les musées, ça peut plus se raconter de cette façon-là. Donc, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est à travers un regard qui est un regard... Enfin, nous, on nous demande d'avoir un regard purement esthétisant sur les objets. On nous montre des masques africains en disant « ça a inspiré Picasso ». Par exemple, c'est ce genre de choses qu'on nous explique. Comme si c'était la valeur arrivée parce qu'un artiste occidental, etc. Voilà. Mais c'est évidemment pas ce regard-là qu'a la famille Tal sur les bijoux qui font partie du trésor de Ségou. C'est pas de cette façon-là qu'il les regarde, c'est pas comme ça qu'il regarde les objets qu'il y a au muséum du Havre, etc. Et les deux regards peuvent tout à fait exister, hein. Je suis pas en train de dire que l'un est plus légitime que l'autre. C'est des différentes façons de regarder et qui peuvent exister en même temps. Enfin, mais il faut laisser de la place pour tout ça, quoi. On peut pas. Je pense qu'aujourd'hui, faire un musée avec ces objets-là en disant ayez un simple regard esthétique là, sur ces objets, moi je ne pense. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne tient plus la route. C'est plus possible. Et d'ailleurs, dans les musées, on commence à voir des scénographies. Alors, ça c'en est vraiment, vraiment au tout début, mais on commence à voir des scénographies ou des cartels qui essayent de raconter un peu autre chose, ne serait-ce que pour comment l'objet est arrivé là, quelle est l'histoire derrière l'objet. Puis, il y a autre chose aussi, c'est que si on veut vraiment investir dans cette recherche sur l'origine des objets, il faut y mettre les moyens. C'est-à-dire qu'une partie de l'histoire de ces objets peut être dans les archives en France ou dans d'autres pays occidentaux, mais il y a toute une partie de l'histoire de ces objets qui est en Afrique. Et donc, ça suppose un travail qui est long, qui peut pas se faire seulement d'un côté. Enfin, ça, c'est en tout cas ce que je pense et de ce que j'ai pu échanger avec des personnes qui travaillent dans les musées. Les personnes en sont tout à fait conscientes, mais n'ont pas les moyens, ni humains, ni financier pour faire ce travail comme il faut. Et en France, quand on voit qu'au Quai Branly, on investit, mais on parle de CDD de 3 mois pour une doctorante, par exemple, pour travailler sur le trésor de Ségou, on se dit, bon, voilà, on pourrait peut-être mettre un tout petit peu plus d'argent, d'autant que aujourd'hui, on est en train de dire que si on restitue, on doit restituer parce que la recherche de provenance nous indique un certain nombre de choses. Donc, si on veut utiliser ce critère-là, il faut mettre les moyens pour le faire. Et le livre s'appelle « Les otages », parce que l'école des otages, parce que Abdoulaye, parce que Naba Camara et parce que les objets. Mais aussi parce que je pense qu'on est tous otages de cette histoire-là tant qu'on n'en parle pas ensemble. Et j'insiste sur le mot « ensemble ». Parce qu'on peut en parler, hein, chacun de son côté. Mais on va continuer à se raconter quoi ? On va continuer à se raconter une vérité qu'on partage et qu'on se dit c'est nous qui détenons la vérité. C'est pas vrai ça. Il n'y a pas une seule et unique vérité sur cette histoire-là. Il y en a plein, il y en a plusieurs. Parce qu'on a été plein à le vivre et que c'est pas... Voilà. C'est une histoire qui est compliquée et parce qu'on est des êtres humains et qu'on est on est des êtres complexes. Et pour le moment, ces occasions d'en parler ensemble sont très rares, malheureusement. Enfin, moi, je suis contente de toutes les rencontres qu'il y a eu autour du livre parce que Justement, on en parle ensemble et j'espère qu'un jour, ça sera possible aussi au Sénégal. Pas forcément à l'Institut français, hein, on est d'accord. Voilà, il y a plein d'autres endroits. Voilà, moi, j'ai discuté du livre là-bas avec d'autres personnes, que ce soit la famille Tal ensuite, qui l'avait lu, qui m'a donné son avis. Voilà, et c'est des moments qui sont très enrichissants pour tout le monde, quoi. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci aussi à vous.
Merci beaucoup à vous d'être venus aussi nombreux, d'avoir été là, d'avoir échangé, écouté. Et puis, je crois que c'est le moment de boire un verre.
Dialogue performé autour du livre Les otages, contre-histoire d'un butin colonial de Taina Tervonen. Une proposition du Musée d'Aquitaine, de l'Institut des Afriques et du laboratoire Les Afriques dans le monde, Halle des Douves, Bordeaux, le 2 mai 2023. Performance et lecture, Patricia Weffa-Grange. Présentation et animation, Elara Berto. Musique, Sira. De Ablaï Sissoko et Volker Godse. Troisième Z de Ablaï Sissoko et Cyril Breteau. Une réalisation de l'émission Le Guide du Bordeaux Colonial, Rendez-vous des Coloniales, sur la clé des ondes, Radio Associative Bordelaise 90.1. Septembre 2023.
Lumina Maulana Bayali. Uno lotita Lumila maulana yamalinati mama manta Sira, 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 sira. Sira, oh, sira.